Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Faut-il taxer davantage les grandes entreprises qui ne connaissent pas la crise ? La question fissure la majorité présidentielle. La présidente de l'Assemblée nationale a ouvert une brèche en invitant le gouvernement à la discussion.
Regardez au niveau des profits des entreprises, donc c'est les fameux super profits. Regardez les dividendes qu'elles versent, ce sont les super dividendes. Il faut simplement tout regarder, ne pas avoir de tabou, ne pas avoir de dogme.
François Bayrou, patron du Modem et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, réclame lui aussi une réflexion sur des hausses d'impôts ciblées.
Une discussion peut être ouverte avec les parlementaires qui, depuis des années, ont essayé de regarder de quelle manière on pouvait avoir un meilleur équilibre sans que l'image de la France, qui permet d'attirer les investisseurs, soit atteinte.
Ce débat intervient alors que deux chiffres se télescopent. D'un côté, le déficit public de la France, qui dérape pour atteindre 5,5% du PIB en 2023. De l'autre, pour la même année, les profits et les dividendes des entreprises du CAC 40 atteignent des records, 153 milliards d'euros de bénéfices nets du jamais vu. Malgré tout, le ministre de l'Économie et des Finances, Le Martel, pas question d'augmenter les impôts.
Je reste, c'est ma conviction. Et c'est ma position, totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes. Alors on me dit, vous n'avez qu'à taxer les entreprises. Oui. Enfin, les entreprises, elles payent déjà des impôts, donc je refuse cette solution de facilité.
Dans un sondage, 65% des Françaises interrogées se prononcent eux en faveur d'une taxe temporaire sur les super-profits de certaines entreprises. Alors l'exécutif va-t-il opter pour une contribution pour les entreprises qui font des bénéfices records ? Une taxe sur les super-profits et les super-dividendes serait-elle justifiée ou risquerait-elle d'écorner l'attractivité française ?
Nos trois invités et leurs fiches. Dominique Carlac, c'est vous qui avez plein de fiches. Bonsoir, vous êtes membre du conseil exécutif du MEDEF et vous êtes présidente d'une société de conseil en innovation depuis 30 ans. Selon vous, c'est le rêve pour toute économie d'avoir des entreprises très profitables. Plus il y a de profits, plus il y a d'investissements et d'emplois. Et vous ajoutez, une taxe temporaire n'existe pas, on revient rarement en arrière. À côté de vous, Thomas Porcher, bonsoir, vous êtes économiste, membre des économistes atterrés. Vous êtes professeur à la Paris School of Business. Votre dernier essai, Mon dictionnaire d'économie, est paru, c'est un ouvrage, est paru aux éditions Fayard. Et selon vous, Thomas Porcher, il y a clairement des entreprises qui ont profité de l'inflation. La question de les taxer est une question parfaitement légitime, d'autant qu'une grosse partie des profits du CAC 40 ne sont pas taxés en France. Et enfin, Sébastien Dumoulin, bonsoir monsieur, journaliste bonsoir. En charge des finances publiques aux Échos. Vous signez d'ailleurs un papier aujourd'hui intitulé « Taxes sur les superprofits, Bercy veut limiter le débat aux producteurs d'électricité ». Vous estimez que cette taxe revient sur la table puisqu'il faut trouver une solution à nos déficits. Une partie de la majorité veut augmenter les recettes et les impôts. Une autre partie craint au contraire de renier le fameux message de 2017. On va y venir bien sûr dans la troisième partie du débat, mais d'abord le podium du jour.
Le podium du jour, ce sont les trois plus gros bénéfices du CAC 40 en 2023. L'an dernier, Total Energy tout d'abord, 8,3 milliards d'euros. Le constructeur Stellantis, Peugeot, Citroën notamment, 18,6 milliards d'euros. Et enfin, LVMH, Louis Vuitton, 15,2 milliards d'euros. Au total, les entreprises du CAC 40 ont cumulé l'an dernier 153,6 milliards d'euros de bénéfices nets. C'était un record historique. Comment on explique ces chiffres, Dominique Carlac ? Qu'est-ce que les grands groupes ont refacturé en quelque sorte l'inflation qu'on a connue ces dernières semaines ? C'est-à-dire qu'en gros, c'est nous qui les avons enrichis.
Comment on explique ça ? On explique ça par la performance globale. En fait, ce sont des entreprises qui ont réussi leur conversion, leur reconversion, leur stratégie de rebond depuis 2020. Quand vous regardez le trio, là, moi, je me réjouis de ces succès, je me réjouis de ces super réussites. Quand je vois Stellantis qui a 10 ans, quand Carlos Tavares l'a pris, était au bord du gouffre avec des marques qui étaient complètement en berne, qui aujourd'hui a sauvé Opel, qui a un groupe avec une quinzaine de marques et qui dépasse Porsche comme Airbus dépasse Boeing, je trouve qu'on a de quoi se réjouir.
Merci pour Total, vous réjouissez, parce que c'est vrai qu'on a vu le prix à la pompe, alors, vous savez très bien ce que ça a soulevé comme interrogation, de 2 euros le prix du litre, et là on se dit 19
milliards. Non
seulement
je me réjouis, mais je félicite les dirigeants de ces entreprises du CAC 40 qui créent de l'emploi et qui génèrent suffisamment d'argent pour investir dans deux grandes transitions, que sont la transition écologique et énergétique et la transition numérique. Quand Publicis, groupe mondialement connu, investi 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle. Je dis merci Publicis. Et quand Total Energy investit massivement dans la transition écologique énergétique, je dis merci Total.
Est-ce que vous vous réjouissez aussi, Thomas Porcher, en fait, comme votre...
Moi, le problème, c'est que quand on regarde ce podium, par exemple, vous regardez Total, Total a vraiment bénéficié d'effets prix. C'est-à-dire que... Oui, il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La Russie est un des premiers producteurs de pétrole au monde, le premier producteur de gaz également. Donc les prix du pétrole et du gaz ont monté sur les marchés financiers. Et Total a bénéficié de cet effet d'aubaine, clairement. Et vous savez, dans les années 70, quand il y a eu les chocs pétroliers, il y a eu un effet d'aubaine similaire. Et les Américains, pays plutôt libéral, ont décidé de taxer des profits qu'ils appelaient des profits imprévus de leur compagnie, qui faisaient de l'argent sur un élément qu'ils dénonçaient.
Mais ce que vous voulez comprendre, que vous dites avec le profit prix, ça veut dire qu'ils ont fait des profits sur le dos des consommateurs.
Ils ont fait surtout le profit, d'abord ils ont fait des profits sur le dos d'un événement que nous condamnons tous, c'est l'invasion de la Russie en Ukraine. Et c'est pour ça que ces profits ont été imprévus, parce qu'il ne devait pas y avoir ces profits-là si le prix n'avait pas augmenté, s'il n'y avait pas eu l'invasion. Et donc à ce moment-là, on aurait pu poser la question et se dire, ces profits ne sont pas considérés comme légitimes selon nous, parce que nous condamnons l'événement, donc nous proposons de surtaxer ces profits comme l'ont fait les États-Unis dans les années 70.
Et Sébastien Dumoin, ce qu'on comprend, ça, on comprend pas, c'est que leurs marges n'ont pas souffert du tout de la hausse des coûts. On a eu de cesse de nous dire que tout a augmenté et que tout le monde allait être impacté. Et là, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On a du mal à comprendre.
Il faut voir plusieurs choses. La première, c'est qu'on focalise là l'attention sur le CAC 40 et sur le podium, c'est très bien. Mais le CAC 40, c'est un panier de 40 sociétés qui est un peu mouvant. Il y a des entreprises qui ne réussissent pas et qui peuvent sortir du CAC 40. Ça a été le cas d'Atos, par exemple. Donc, on regarde celles qui ont très très bien marché. Ça crée un prisme. Et la deuxième chose, c'est que sur les marges de ces entreprises, on sait qu'il y a certaines entreprises qui ont reconstitué des marges du fait de l'inflation. Mais on sait aussi que ça a été variable d'un secteur à un autre. Il y a des études qui se sont attachées à ce sujet-là. On sait par exemple que dans les services, dans l'hôtellerie-restauration, en vrai, ils ont pris de plein la hausse des matières premières et ils n'ont pas vraiment pu la refacturer aux clients derrière. Donc les marges se sont compressées. Et à l'inverse, il y a d'autres secteurs comme le transport maritime avec CMA-CGM où les coûts sont restés les mêmes, où vous citiez le secteur pétrolier, où tout d'un coup, à cause de l'invasion en Ukraine, on a une flambée de certains biens et des entreprises qui ont des coûts qui ne correspondent pas forcément. Donc, il y a une hausse des marges.
On va se concentrer sur le rachat d'actions avec vous, Anna. Je précise que 67 milliards de dividendes, donc ça, c'est le chiffre de 2023. Le grand gagnant, c'est l'actionnaire. Nouveau phénomène, le rachat d'actions. Vous nous expliquez de quoi il s'agit.
Oui, exactement. 30 milliards d'euros de rachat d'actions cette année, en 2023. Et ce montant n'a jamais été aussi élevé en France. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Eh bien, le rachat d'actions, c'est une mesure très courante et populaire aux États-Unis, et qui consiste, pour une entreprise qui fait des bénéfices, à racheter elle-même ses propres actions disponibles en bourse pour les offrir à ses actionnaires. Et cerise sur le gâteau, ces opérations ne sont pas imposées. Je rappelle que quand une entreprise fait des bénéfices, elle a plusieurs options qui s'offrent à elle. Elle peut décider de rémunérer ses actionnaires en leur versant des dividendes, mais aussi, elle peut aussi réinvestir une partie de ce résultat directement dans l'entreprise, soit en investissant dans des projets d'investissement, soit en les redistribuant aux salariés. Et ces options peuvent tout à fait se cumuler. Mais ce qui crispe aujourd'hui les politiques sur le rachat d'actions, que ce soit en France ou même aux États-Unis, c'est qu'il s'agit en fait d'une deuxième rémunération pour les actionnaires. Regardez, en 2023, 30 milliards de rachats d'actions, on l'a dit, plus 67 milliards que vous évoquiez, Elisabeth, de dividendes, c'est près de 100 milliards d'euros reversés aux actionnaires, soit deux tiers des bénéfices du CAC 40. Et l'année dernière, à la même époque, Emmanuel Macron, le chef de l'État, déclarait dans une interview, en parlant de ces rachats d'actions, « Il faut trouver la bonne technique pour que les entreprises distribuent davantage à leurs salariés. » Et il évoquait à ce moment-là aussi le cynisme des entreprises qui pratiquaient ce type d'opération. Dominique Carla, qu'est-ce que vous pensez, qu'il faut interdire le rachat d'actions aux entreprises?
Alors non, il ne faut pas interdire le rachat d'actions pour les entreprises, parce que vous les redistribuez non seulement à des actionnaires, mais aussi à des salariés. C'est-à-dire que vous favorisez l'actionnariat salarié quand vous procédez ainsi.
Oui, alors il y a quand même une différence entre les salariés actionnaires et les très grands actionnaires.
Et les grands actionnaires. Mais néanmoins, je pense qu'il faut quand même aller sur un terrain où on peut redistribuer une partie de l'actionnariat à ses salariés. Et Deuzio, l'an dernier, je reprends l'exemple de Stellantis, 1,9 milliard ont été redistribués aux salariés issus des profits de l'année 2023.
Alors, bon, moi déjà, ça me fait rire qu'Emmanuel Macron découvre ça. Ça me fait penser à Nicolas Sarkozy qui avait découvert ça en 2012. Je me souviens quand il était contre François Hollande dans une grande émission, il avait dit c'est très grave qu'il y ait des grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France. Il avait dit ça, qu'il voulait mettre d'ailleurs un impôt spécial à l'époque. Et puis il avait dit qu'il fallait que ce soit un tiers sur le partage des bénéfices. Je m'en souviens, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés, un tiers pour l'investissement. Il y a maintenant pratiquement 15 ans qui se sont écoulés. On est toujours au même débat où on découvre des choses qui existent maintenant depuis un certain nombre d'années. Et c'est assez désolant. Mais effectivement, vous l'avez très bien expliqué, ce qui va en rachat d'actions ne va pas en investissement et ne va pas en augmentation des salaires, sauf via le circuit qui a été dit du dividende salarié.
Thomas Porcher, vous êtes pour, on en parle, là, c'est l'actualité, est-ce qu'il faut une taxe temporaire sur ces super profits ? Est-ce que vous dites qu'il y a 19 milliards là qui sont en fait, bénéfices de Total, est-ce qu'on en prend la moitié ?
Le vrai problème, c'est le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il y a le déficit qui est à 5,5, tout le monde s'en alerte. Il y a la dette qui augmente, tout le monde s'en alerte. Ça n'est pas mon cas, par ailleurs. Mais on demande aux Français de faire des efforts sur l'assurance chômage, il va y avoir une deuxième réforme. Sur les retraites, on a voulu économiser 10 milliards. On va retirer 5 milliards à l'ensemble des services publics qui sont quand même... qui profitent à l'ensemble, on dit le service public, c'est le patrimoine du pauvre.
Donc vous dites tout le monde devrait faire des efforts.
Donc dans un contexte où on nous impose une contrainte budgétaire forte, tout le monde doit y participer. Et c'est bizarre que les aides d'entreprise soient sans contrainte, elles soient sans contrainte. Et je trouve ça anormal qu'on ait des profits records. Par exemple, vous voyez, le CAC 40, on en parle beaucoup, mais le CAC 40, ils ont 1200 filiales, dans les paradis fiscaux.
Cette question
est-ce normal
pas de...
Je ne crois pas.
Mais je ne peux pas vous laisser dire ça, Thomas Porcher, que c'est sans contrainte. Les aides des entreprises, c'est sur sélection avec un certain nombre de critères. D'abord, les aides ne représentent jamais plus de 30% du budget qu'elles mettent. Si vous avez un projet à 100, que vous investissez dans n'importe quelle technologie, au maximum, vous aurez une aide d'État de 30%. Et parfois, ça sera une aide d'État qui sera récupérable par l'État si le projet a fonctionné. Et parfois, ce sera de la pure subvention quand il y aura vraiment une prise de risque sur le plan scientifique et technologique. Donc, les critères, il y en a. Parce que toutes les entreprises qui candidatent à avoir des aides d'État n'ont pas
alors,
ces aides d'État.
Alors, d'accord pour les aides d'État, mais sur la taxe...
Les baisses d'impôts.
Sur cette taxe temporaire sur les super profits, suggérée par des gens comme François Bayrou, Yael, Brottes-Pivet, des gens qui commencent à y réfléchir dans le gouvernement et dans la Macronie.
Il y a deux plans sur cette analyse. Il y a le plan purement économique. Ça n'est pas un cadeau à faire à l'économie France, à l'équipe de France de l'économie, de lui dire au moment où ça marche bien pour vous, au moment où vous pouvez investir et où la France peut investir, on va vous taxer. Parce qu'évidemment, il y a un déficit colossal. On prend 130 milliards de plus. On arrive à un doublement de la charge de la dette. Donc, on cherche où est l'argent. Mais est-ce que c'est au moment où les entreprises peuvent avoir cette capacité d'investir qu'il faut aller leur enlever cette capacité ? En fait, on marche sur la tête de se dire que c'est au moment où ça fonctionne qu'il faut les taxer. C'est une solution, mais qui est de court terme.
Alors, vous allez réagir, mais on va vous soumettre à propos de cette idée de taxation qui abîmerait et cornerait l'attractivité des fameuses entreprises. On va regarder une archive qui remonte au sommet de Versailles. C'était en France, évidemment. C'était à l'initiative d'Emmanuel Macron en 2018, autour donc de cette notion d'attractivité.
Pour qu'ils choisissent la France, Emmanuel Macron leur offre Versailles. 140 invités prestigieux, la fine fleur du monde des affaires, des investisseurs sur le chemin du forum de Davos. Opération séduction pour obtenir des contrats. D'après l'Elysée, ce mini-sommet aurait déjà porté ses fruits. Les investissements sur 5 ans en France devraient atteindre 3,5 milliards d'euros et permettre la création de 2200 emplois.
Je crois que tout ce qui a été fait, notamment sur le marché du travail, notamment sur la fiscalité, a montré la détermination de cette majorité à changer la donne en France et à nous rendre plus attractifs pour les investisseurs.
Sébastien Dumoulin, est-ce qu'augmenter des taxes, des impôts aux entreprises, ça peut décourager l'investissement dans notre pays et donc son attractivité ?
En tout cas, c'est clairement la doctrine d'Emmanuel Macron. Mmh. C'est sur ce programme-là qu'il a été élu en 2017, qu'il a été réélu en 2022,
mais
peut-être un petit peu moins
fruits,
facilement. Mais la doctrine, c'est je baisse les impôts, je favorise la croissance des entreprises, le fait justement qu'elles vont faire des bénéfices, qu'elles vont investir. Et regardez, ça crée de l'emploi, le chômage diminue, on ouvre plus d'usines qu'il n'en ferme. On a une inversion de cette désindustrialisation qu'on regrettait depuis des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas le moment de changer de cap. Et en fait, il y a une vraie réticence du président au premier chef et du ministre de l'économie derrière lui, qui est de dire, en fait, si on commence à entrouvrir la porte parce qu'on est dans une difficulté budgétaire en ce moment, à une hausse d'impôts sur les dividendes, les rachats d'actions, etc. On casse ce discours-là et en fait, plus personne ne va nous croire derrière. Donc, on ne veut surtout pas y aller. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ils ne veulent pas y aller. Il y a une raison de cohérence un peu dogmatique. Et la deuxième, c'est qu'en fait, ce n'est pas super évident. C'est-à-dire que là, on voit qu'ils ont cherché 10 milliards pour, d'économies cette année. Ils cherchent 20 milliards l'année prochaine. Et on se dit, il y a quand même 150 milliards de profits qui ont été faits par le CAC 40. Il y a 100 milliards de dividendes et de rachats d'actions. À un moment, c'est quand même relativement facile d'aller taper là-dedans.
Ils ne sont pas tous d'accord. Bruno Le Maire ne veut pas d'impôt exceptionnel, on l'a entendu, sauf pour les énergéticiens comme Total. Mais son collègue au budget, Thomas Cazenave, lui, il veut chercher des recettes. Il veut trouver des recettes. Il n'exclut rien, on l'écoute.
Et la question des recettes, elle n'est pas taboue. Et j'entends, moi, le débat au sein de la majorité. Vous savez, quand la Cour des comptes explique qu'il y a des super profits générés par les énergéticiens de plusieurs dizaines de milliards d'euros, je trouve que ce sujet-là, il mérite d'être posé. Notre porte est ouverte. Il n'a pas de position dogmatique.
C'est une bonne illustration du fait, c'est une bonne illustration du fait que c'est pas facile à mettre en place, parce que la seule entorse que le gouvernement a fait jusqu'à présent sur la question des super profits, c'est précisément sur les énergéticiens, c'est-à-dire les producteurs d'électricité, ils se sont retrouvés à faire des profits formidables parce qu'en fait ils vendaient l'électricité très cher du fait de la guerre en Ukraine et ils la produisaient pas cher, donc on va aller gratter ces marges-là, on va les récupérer. Bilan des courses, ils en attendaient 12 milliards, je crois, l'année dernière, ils ont récolté 300 millions parce que le truc était mal ficelé.
Peut-être 600 millions d'illusions.
Et sur l'attractivité, qui était notre sujet précédent, on a eu en France 1259 entreprises qui ont investi contre 900 en Royaume-Uni et puis 800 en Allemagne. Donc, ce n'est pas doctrinaire, c'est qu'on a quand même des implantations
d'entreprises. Il n'y a pas de dogme, mais si on entend bien le ministre du budget, tout est possible.
Attention. Non, parce que Emmanuel Macron est très sensible. Il est très sensible au thermomètre social. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, il sait très bien qu'il ne peut pas tirer la corde trop loin. Et donc là, dans un moment où on va demander des économies supplémentaires aux personnes sur l'assurance chômage, sur peut-être même les retraites, il y a des gens qui ont parlé à un moment de désindexer les retraites en période d'inflation. Oui. Donc vous voyez, ça risque. D'autres parlent, des grands conseillers parlent d'augmenter la TVA en période d'inflation. Donc je pense qu'il sait très bien que là, la température est très élevée dans la société civile et qu'il faut penser à parler aussi des recettes, même si ça restera symbolique.
Vous avez regardé ce sondage de Libération de ce matin.
À propos de
la taxe exceptionnelle en tête de liste de cette enquête Via Voice, 65% de soutien de la part des Français qui disent qu'il faut une taxe exceptionnelle. Quand vous voyez... Oui, Thomas Porcher.
Oui, je pense, moi, que les gens se rendent compte qu'il y a une déconnexion entre ces chiffres complètement hallucinants du CAC 40 et ce que vivent les gens dans la vie réelle.
Alors, vous
avec
comprenez
une croissance
ça
très faible et une inflation
cette déconnexion,
quand même à deux chiffres sur l'alimentation.
Dominique Carlac, vous comprenez
Je comprends la déconnexion quand on n'explique pas aux gens à qui on dit est-ce que vous êtes pour une taxation des super-profits? Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un super-profit. Je sais ce que c'est qu'un profit. Qui c'est qui fixe le fait que ça soit un super-profit? Qui c'est qui dit
C'est qu'en période de difficulté budgétaire, on se dit que là, il y a un profit qui est plus élevé qu'à l'habitude.
J'entends bien, mais alors, si on pose la même question en disant il faut combien pour accélérer la transition énergétique? Il faut 40 milliards d'euros de plus d'investissement tous les ans pendant 10 ans.
On est à 20% de la moyenne des 5 dernières années au-dessus. Là, on considère qu'il y a...
Et les investissements qu'on doit faire pour accélérer les transitions énergétiques n'ont jamais été aussi élevés. Donc, à un moment donné, il faut aussi parler aux Français en disant si on doit changer notre système énergie, si on doit faire notre transition écologique, c'est des milliards et des milliards d'investissements à faire. Sinon, on peut rester comme avant.
Répondez à ça.
Je réponds à ça, mais il y a
un argument contre cette
taxation. Il y a une grosse partie des bénéfices qui ne va pas majoritairement à l'investissement, comme c'est dit, mais plutôt à rémunérer des actionnaires. Et vous avez aussi, force est de constater en Europe, un système qui fait qu'il y a une grosse partie des bénéfices qui échappent à l'imposition nationale pour aller se loger, notamment en Irlande. Vous savez, quand vous regardez la croissance économique de l'Irlande ces trois dernières années, vous savez, c'est combien? C'est plus de 40%. La France, on est moins de 2%. L'Allemagne, on est moins d'un pour cent. Parce que tout le monde va déclarer, via des prix de transfert, ses bénéfices en Irlande pour payer le moins de fiscalité possible et échapper à l'impôt. Ce qui fait qu'il y a des grands groupes du CAC 40 qui ne payent pas d'impôts en France.
C'est regrettable, non, Dominique Carlac, ou c'est une réalité qu'on met de côté?
Pour un pourcentage, probablement qu'il existe, puisqu'il y a 40% de croissance en Irlande, d'entreprises françaises qui iraient défiscaliser, on dirait que toutes les entreprises françaises. Non, mais ce que je veux dire, on va pas, c'est pas dans la Constitution de dire on fait un impôt à la tête du client. Non. Donc on va pas faire, on va pas dire alors telle entreprise on va la taxer comme ci, puis telle autre on va la taxer comme ça.
Comment expliquez-vous que le CAC 40 a 1200 filiales dans les paradis fiscaux? Alors parfois on peut avoir une filiale dans un paradis fiscal parce qu'il y a des consommateurs ou on a des boutiques, mais 1200 filiales sur 40 entreprises. Qu'est-ce qu'elles y font? Il faut qu'à un moment Bercy se pose aussi des questions.
Sébastien Dumoulin, il faut trouver des recettes incontestablement puisqu'il va 10 milliards, vous l'avez dit, 20 milliards pour l'année prochaine et peut-être 50 milliards selon la Cour des comptes. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut revenir sur ce dogme qu'il a imposé depuis 7 ans, qui est pas d'impôt supplémentaire, ou est-ce qu'il peut céder aux sirènes d'une partie de sa majorité?
C'est une bonne question, mais la clé de cette question, c'est qu'il ne faut pas forcément des recettes supplémentaires. En fait, on peut couper dans les dépenses de manière équivalente, en fait, pour arriver au même résultat.
Donc c'est ça qui va privilégier, c'est-à-dire, par exemple, sur les allocations chômage.
Pour l'instant, c'est ce qu'il privilégie.
Pour l'instant, c'est ce qu'il a privilégié, à ceci près qu'il y a un an de ça, il a effectivement ouvert la voie à une taxation des rachats d'actions qui n'a jusqu'à présent pas abouti.
Mais Dominique, quand même, il y a juste, une question sur les allocations chômage au moment où on dit justement qu'elles pourraient être diminuées ou que la CSG pourrait être augmentée sur les allocations. Ça ne vous choque pas? Vous ne dites pas, bon, peut-être que ce n'est pas le moment de diminuer les allocations de chômage de ceux qui n'ont pas d'emploi?
En fait, peut-être que la priorité, c'est les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire se dire, en fait, il y a des dépenses sociales qui sont indispensables, dépenses d'éducation, dépenses de recherche. Mais je ne dis pas que c'est bien de les avoir coupées.
Et donc, c'est ça qu'il faut sanctuariser?
Il faut absolument qu'on conserve le modèle à la française.
C'est moins de fonctionnaires, par exemple.
Mais en revanche, effectivement, sur le fonctionnement, je ne dis pas moins de fonctionnaires en général. Il faut plus de soignants, il faut plus d'enseignants et mieux payés.
C'est un autre débat.
En revanche, avoir moins de fonctionnaires. Par exemple, quand on annonce 70 000 fonctionnaires de plus au ministère de la fonction publique, on peut s'interroger pourquoi y en a-t-il besoin de 70 000 en plus.
C'est un autre débat, on le fera prochainement ici même. Merci à tous les trois d'avoir débattu et d'avoir exploré notre question du jour autour des super profits.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.